Chaque année, l'Association des journalistes professionnels, l'AJP, organise un festival public de journalisme en devenir, au cours duquel des projections et des prises de parole dessinent le futur du journalisme pour les journalistes du futur. Les prises de parole du samedi 30 novembre 2019 ont été enregistrées. Il s'agissait du journalisme constructif présenté par Michel Vizard et Wendy De Wild, le projet de la nouvelle ASBL Engage, consacré aux journalistes réfugiés en Belgique, et enfin, du journalisme immersif avec Aubry Touriel, journaliste qui a infiltré pendant 3 ans les réunions internes de la NVA. Vous êtes au Théâtre Marny le 30 novembre 2019.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Aubry Touriel. En fait, je suis aussi d'origine liégeoise, mais je me suis exilé à Anvers il y a environ 5 ans. Et là, maintenant, je suis journaliste indépendant pour différents médias, dont la RTBF, VRT, Le Vif Express, Dardar, Wilfried et Médor, dernièrement, pour faire une petite liste. Donc, que ce soit un récit sur Ostende, un reportage sur la collaboration entre la RTBF ou la VRT, ou une enquête sur les clubs estudiantins flamingants, ou des chroniques vues d'Anvers à l'approche des élections communales, en fait, tous mes reportages ont un point commun, c'est vraiment que je veux raconter ce qui se passe de l'autre côté de la frontière linguistique, et comment les Flamands vivent et comprennent la société actuelle. Et ce qui est vraiment aussi super important, c'est que je veux vraiment insister sur la nuance. Donc je cherche à rapporter tout en nuance et sans préjugés. Et vous allez me dire, un francophone infiltré à la NVA, c'est un peu un comble. Comment ça se fait que moi qui suis né à Srein, à Srein pour ceux de la région liégeoise, un bastion liégeois, comment je me suis retrouvé en fait à Anvers, un bastion où en fait le James Bellang a trouvé ses fondations, mais aussi à Galef. Donc comment ça se fait? En fait, il faut retourner au début de mes études. Moi, je n'ai pas fait le journalisme, donc en fait, ici, je suis devant un public de jeunes journalistes en devenir, mais moi, j'ai fait des études de traduction. Donc, j'ai étudié à Mons, donc la traduction anglais, néerlandais, allemand. Et pendant mes études, j'ai eu l'occasion de faire un voyage en Erasmus. Et un peu bizarrement, j'ai choisi mon propre pays pour partir en Erasmus. Donc je suis allé à Anvers pour découvrir la culture flamande. Et là, j'ai vraiment découvert plein de choses, que ce soit la culture. Donc j'ai appris à découvrir le programme, le quiz télévisé de Slimsteminster World avec mes colocataires. Donc c'est un quiz où, par exemple, Bardo Ever a commencé à être connu. J'ai aussi fait mes premières sorties à vélo et depuis je ne lâche plus mon vélo, que ce soit dans n'importe quelle ville où je vais. J'ai aussi appris plein de termes de jeux de cartes, je pourrais vous parler pendant des heures et des heures de mes expériences à Anvers. Après mon Erasmus, je suis retourné à Mons et puis j'ai fait un an j'ai passé un an comme traducteur à l'étranger, donc j'ai fait des stages un peu à gauche à droite en Allemagne, au Luxembourg, en Autriche. Et puis finalement, j'ai trouvé mon premier travail, c'était à Bruxelles. Et là, c'était pour un média qui s'appelle Euractiv. Donc c'est un média spécialisé sur les affaires européennes. Et donc là, j'ai commencé en fait à être responsable de la traduction. Et donc là, j'ai traduit des articles de presse. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte, waouh. Là, j'ai découvert les médias. J'étais déjà intéressé avant, mais là, je me suis rendu compte, c'est vraiment intéressant de pouvoir être dans ce milieu-là. Mais quand je traduisais des articles, j'étais là, mais ça, j'aurais peut-être pu un peu aller un peu plus loin. J'aurais pu un peu... Donc toute cette fibre journalistique, ce virus est apparu. Et donc, petit à petit, comme bénévole, j'ai commencé à travailler pour différents médias, donc Café Babel, un média européen participatif. Et puis, je me suis dit, après 2 ans à Bruxelles... on m'avait dit que Bruxelles c'était une ville bilingue, donc je m'étais dit, chouette, je vais pouvoir pratiquer mon néerlandais. Forcé de constater malheureusement que c'était pas forcément gagné. Donc je me suis dit, j'ai encore des amis à Anvers, je vais retourner là-bas. Et donc mon but était de devenir correspondant de Flandre pour les francophones. mais j'avais pas beaucoup d'expérience comme journaliste et j'avais pas encore publié d'articles payants. Et donc voilà, en tant que jeune journaliste, c'est déjà difficile quand on vient des études de journaliste. Et donc du coup, quand je suis arrivé à Anvers, je me suis dit, bon, je vais contacter tous les rédacteurs en chef des principaux médias, et en espérant qu'ils me répondent et que je puisse proposer des piges et que ça se passe un peu comme ça. Et au final, j'ai eu un contact avec Thierry Fiorilli du Vif L'Express, qui était à l'époque rédacteur en chef adjoint. Et c'est lui qui était assez intéressé par mon profil, et donc je lui ai proposé finalement différents sujets. Et puis, donc, au niveau du temps, donc je suis arrivé en octobre 2014 à Anvers. Et donc en novembre, j'étais sur Internet et je regardais le site de NVA pour voir un peu quelles étaient les différentes activités. Et là, je vois sur le site, il y a une activité qui s'appelle le Tour pour la Flandre. Et là, dans le Tour pour la Flandre, la NVA organisait dans chaque province flamande un événement où elles allaient expliquer leur programme avant les élections et le programme, l'accord de gouvernement. Donc il fallait savoir que ça faisait quelques mois que le gouvernement Michel, où pour la première fois la NVA était à bord, venait de se créer. Et donc moi, en tant que journaliste, je me suis dit, c'est intéressant de voir un peu comment ils vont vendre le fait qu'ils mettent le communautaire, par exemple, de côté. Et donc je me suis dit, je contacte la NVA et je leur demande si, en tant que journaliste, je suis autorisé à rentrer. Et ils m'ont dit non. Donc là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Et donc là, j'ai un peu contacté, donc j'en ai parlé avec Thierry Fiorilli, mais aussi Christophe de Borsu, que j'avais rencontré à l'époque, et j'aurais un peu demandé quel était leur avis. Ils m'ont dit, fonce, vas-y, mais prends tes précautions. Et donc j'ai contacté aussi le conseil de déontologie journalistique pour voir quelles sont les règles à respecter pour pouvoir, en fait, être journaliste et en même temps avoir une carte de parti. Parce que normalement, ça se fait pas trop. Après avoir contacté le CDJ, j'ai pris ma carte de parti. Donc là, on était en novembre ou fin novembre 2014. Et j'avais recontacté les différents médias pour leur dire, voilà, je vais me rendre à cette réunion, le Tour pour la Flandre. Est-ce que ça vous intéresse? Et j'en avais parlé avec le Vif L'Express qui m'avait dit, c'est intéressant, mais nous on publie le jeudi et toi ton réunion elle est le vendredi, donc ça risque d'être un peu dépassé. Je dis bon, ok, mais Thierry Fiorilli m'avait donné d'autres contacts et finalement j'avais un accord avec le Moustique qui m'avait donné un accord de principe avant d'aller à la réunion. Et donc là, le jour J, le 12 décembre 2014, j'arrive dans une salle dans le sud d'Anvers, qui s'appelle The Zuiderkroon, où il y a environ une capacité de 500 personnes. Et j'arrive à l'entrée, et moi je stresse un peu, c'est la première fois que je fais ça. Et surtout que ça faisait à peine une semaine que j'avais eu ma carte de membre, donc je me demandais, est-ce que je suis bien sur les listes? Au final, mon nom était bien sur la liste, j'ai un bracelet jaune, je peux rentrer, voilà. Et donc je rentre dans le bâtiment et directement, en fait, je me rends dans les toilettes. C'est un peu bizarre, mais c'était un peu, en fait, la technique que j'utilisais à chaque fois, c'est que je me rends directement dans les toilettes, j'active mon dictaphone, et puis après, je suis allé dans la salle, je me suis installé tout simplement, et j'ai écouté le discours. Il fallait savoir que donc à Anvers, comme vous le savez sûrement, mais bon, il y a Bart De Wever qui est le bourgmestre de la ville, qui est aussi le président du parti. Mais lors de cette première réunion, il y avait aussi d'autres grands gros poissons Johan van Overtveld et Jan Jambon, qui sont aussi de la région anversoise. Et donc voilà, la réunion se passe, ils insistent sur le fait dès le début, cette réunion est interdite à la presse, donc on va pouvoir un peu vous donner des petits détails croustillants. Et c'était le cas, effectivement. Donc en fait, c'était la première fois, ce qui m'a marqué pendant cette première réunion, c'était que la NVA critiquait le CDNV. Parce que, en fait, si vous voulez, c'était un peu le partenaire de gauche, entre guillemets, pour la NVA. Et donc, il y avait des manifestations pendant les rues où les représentants de l'ACV, donc c'est le syndicat, donc le CSC flamand, qui est dans les rues, qui manifeste contre le gouvernement, alors que le CDNV est dans le gouvernement. Et Bart De Wever se lâche, il n'arrête pas de critiquer le CDNV. Et donc, après 2h30 de réunion, je sors de là, je me dis, ça va, je pense que j'ai de la matière, assez satisfait. Et donc pendant le week-end, j'écris mon premier article et je l'envoie à la rédaction du Moustique. Et là, le lundi, il y avait une réunion et je reçois un email et là, je vois On me dit, hein, en fait, on en a parlé, la démarche journalistique est excellente, mais le résultat est assez décevant. J'étais là, ouais, décevant, ok. Je sais pas, moi, j'avais l'impression que j'avais assez d'informations que pour pouvoir faire un article. C'est un peu bizarre. Et là, je me suis un peu rendu compte. En fait, est-ce que c'est peut-être dans l'imaginaire francophone. En fait, j'ai l'impression que peut-être ils voulaient que Bart Weaver fasse un salut nazi. Je sais pas trop ce à quoi ils s'attendaient. Mais donc, du coup, voilà, j'étais un peu frustré. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'avais l'impression que j'avais de la matière. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je recontacte Thierry Fiorilli du VIF. Et puis, finalement, ils le prennent. Ils prennent mon article. Et là, donc, ils le publient le jeudi. Mais avant de publier, j'avais une question à me poser, c'était sous quel nom est-ce que je vais publier mon article? Parce que si je l'écris sous Brit Ouriel, ben voilà, la NVA fait le lien directement et je pourrais plus continuer à aller aux réunions. Donc du coup, j'ai un peu réfléchi et en fait, mes amis flamands, pour se moquer de moi, ils m'appellent souvent The Vuile Wall, donc le sale wallon. Et donc j'étais là, The Vuile Wall, The Wall. The Wall, en fait, c'est un nom assez courant en Flandre. Et donc du coup, je me suis dit, je vais prendre The Wall. Et comme prénom, j'avais choisi Dominique, parce que ça peut être un homme ou une femme. Et donc voilà, Dominique The Wall était né. Donc mon premier article a été publié, et c'était dans le VIF Express, du coup. Et ça a fait direct le buzz, en fait. Donc Belga, enfin à partir du moment où Belga reprend un article, ben tous les médias le reprennent et c'était le cas ici. Et donc c'était assez un peu bizarre parce que c'était le premier article pour lequel j'allais être payé et le premier article que je publiais vraiment en tant que journaliste et en fait je pouvais pas faire la promotion parce que c'était sous pseudo donc c'était un peu une situation un peu bizarre. On était en 2014, je continue à aller aux réunions. En général, il y en a plus ou moins une tous les 3 mois. C'était la locale à Anvers. Et donc, généralement, il y a les échevins qui sont sur place, qui expliquent le programme local, qu'est-ce qui se passe au niveau communal. Mais Bart Weaver, qui a plusieurs casquettes, vient aussi de temps en temps. Et moi, en fait, je me suis rendu aux réunions seulement à celles où Bart Weaver était présent. Et donc, en octobre 2015, donc, 10 mois après mon premier article, je décide d'en publier un deuxième. Parce qu'il faut savoir aussi que je ne publiais pas à chaque réunion, parce qu'il faut que ce soit qu'il y ait un contenu pertinent. Et donc là, je publie mon deuxième article. Et là, c'était Bart Weaver qui disait clairement qu'il ne voulait pas d'une répartition des migrants en Belgique. Une répartition obligatoire. Parce que là, il faut savoir qu'on était en octobre 2015. Et donc là, c'était le sommet de la crise migratoire. Et donc, j'ai titré mon article là-dessus. Et puis, quelques jours après la publication, Thierry me téléphone, et donc Thierry Fiorilli du VIF me téléphone et me dit « Ah, la NVA m'a contacté. » Et ils m'ont demandé de divulguer ton nom, ils ont dit aussi que si on continuait à avoir recours à cette pratique, qu'ils allaient porter plainte auprès du Conseil de déontologie journalistique. Et donc en gros, ils ont un peu foutu la pression, ils ont dit, oui, si vous ne retirez pas l'article et vous ne dévoilez pas l'identité du journaliste, nous, on porte plainte. Thierry Fiorilli a dit, allez-y, pas de souci. Et donc, la NVA a porté plainte auprès du Conseil de déontologie journalistique. Et quelques mois après, en février 2016, le verdict est tombé et la plainte était non fondée. Parce que, comme je vous ai dit au départ, c'est que je me suis renseigné avant, j'ai vraiment pris toutes mes précautions. Et donc, pour information, donc on peut avoir recours à des pratiques déloyales sous 4 conditions. La première, c'est que on ne peut pas obtenir l'information d'une autre manière. Donc moi, je voulais analyser le discours en interne et en externe. Je ne pouvais pas faire autrement que de prendre la carte de parti. Le deuxième, c'est que l'information... L'intérêt de l'information ne soit... Pardon, le risque encouru pour obtenir l'information ne soit pas trop élevé par rapport à l'information qu'on veut obtenir. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais donc... Bon, a priori, la NVA n'avait pas une milice qui allait essayer de me tuer parce que j'ai infiltré le parti, donc ça aussi, ça allait. Troisième, c'est qu'il faut le soutien de la rédaction. Et il y a une quatrième, que maintenant j'ai oublié, évidemment. mince, je vais revenir dessus, pardon. On pourra venir dans la question-réponse, ça reviendra par la suite. Et donc finalement, ben voilà, Dominique De Waal 1, NVA 0, j'étais assez content du verdict du CDJ. Au final, donc du coup, je ne faisais pas que ça de ma vie non plus. Donc ça, c'était une partie de mes activités journalistiques. Mais à côté de ça, j'essayais d'écrire d'autres articles pour d'autres médias. J'étais aussi prof de français parce que, comme vous le savez, en tant que jeune journaliste, c'est assez difficile de vivre seulement de son métier, surtout quand on est freelance. Et donc du coup, j'étais professeur de français pour des adultes dans les entreprises. Bref, donc je continue mes enquêtes, je continue à aller aux réunions, et là, en novembre 2016, c'est ma sixième réunion, donc je me rends à Hoboken, c'était en fait l'endroit en général où se passaient les réunions, donc c'est dans le sud d'Anvers, la Bar de Wever était présent à nouveau, et il parle de la création d'un nouveau centre fermé pour illégaux criminels, donc des criminels illégaux ou des personnes criminelles en situation irrégulière. Et donc moi, j'en fais mon titre. Donc je fais le titre, voilà, Anvers va... En fait, ils allaient prendre des containers inutilisés aux Pays-Bas et les importer à Anvers pour pouvoir enfermer ces personnes. Parce que, en fait, il critiquait le manque de capacité d'enfermement pour ces personnes-là. Mais dans cet article, je cite aussi un passage sur les razzias. Donc, qu'en fait, la police, il laissait sous-entendre que la police faisait des actions pour cibler certaines nationalités. Il demandait de téléphoner à Théo Franken pour savoir vers quelle destination allait le prochain avion et qu'il fallait remplir l'avion. Donc ça, j'en avais déjà parlé en novembre 2016. Je souligne ça parce qu'on va revenir après et vous allez savoir pourquoi. Et donc cet article est sorti, mais pas en version papier, mais seulement sur le site. Et Knack l'a traduit, donc l'équivalent du VIF en néerlandais. Et The Standard aussi a repris l'information. Belga n'a pas repris l'information, donc tous les autres médias n'ont pas repris l'information. En quelques mois après, il y a eu cette... dans la presse francophone, il y avait le parc Maximilien, et il y avait aussi dans la presse francophone des soupçons de rafle. On parle qu'il y avait aussi des actions menées sur certains groupes de migrants et qu'il y avait des quotas à respecter. Mais assez bizarrement, en fait, on n'a pas reparlé de mon enquête non plus. Moi, j'avais déjà à la limite un peu oublié ce que j'avais écrit quelques mois avant, donc j'avais pas remis le couvert pour insister là-dessus. Bref, normalement, il y avait une présentation, un PowerPoint, et là, normalement, je vous aurais présenté un slide avec The Mole. Donc, The Mole, en fait, ça veut dire la taupe, et c'était un jeu télévisé en Flandre qui était super populaire. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est que c'est un groupe de personnes, et l'idée, c'est qu'on doit essayer de trouver qui est la personne qui cache son identité dans le groupe. Bref. Moi, ça faisait maintenant, donc là, on est en août 2017, donc ça fait deux ans et 10 mois, presque 3 ans que je suis membre à la NVA. En parallèle, j'ai décidé de faire un bilan de 6 ans de NVA à Anvers, parce que en 2012, c'est la première fois que Bart De Wever devient bourgmestre. Donc, du coup, c'était faire un peu l'idée de l'analyse de sa politique. Qu'est-ce qu'il a fait vraiment et qu'est-ce qu'ils ont changé? Et dans ce cadre-là, je voulais interviewer tous les présidents de parti, dont Bart De Wever. Et donc, du coup, j'envoie un email à Bart De Wever et c'est son porte-parole qui répond et il me demande « Oui, pour quel média est-ce que vous travaillez et est-ce que vous rapportez ça depuis Anvers ou depuis la Belgique francophone ?» Là, je m'étais arrangé avec le rédacteur en chef du VIF pour dire, je ne vais pas mentir. Enfin, ça ne sert à rien. Je vais dire, j'ai répondu, c'est pour le VIF et je vais suivre les élections communales à Anvers. Et puis là, je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse de sa part. Je me suis dit, là, on était en septembre 2017, les élections sont en octobre 2018, j'ai encore le temps, je relancerai plus tard. Un mois plus tard, je me rends à ma 9e réunion de la NVA. Et là, c'était toujours à Hoboken. Et je suis arrivé un peu en retard. Je suis arrivé un peu en retard, donc je rentre dans la salle. Le discours était déjà... Ils étaient déjà en train de parler. Et sur scène, il y avait Bardo Wever. Et à côté de lui, il y avait Fons du Château. Et Fons du Château, c'est le président de la NVA Anvers, mais qui était aussi avant l'échevin aux affaires sociales, donc le président du CPAS. Et donc, Bardo Wever est en train de parler. Et puis, à un moment, Fons du Château montre son GSM à Bardo Wever. Et Bardo Wever regarde. Et là, et puis il soupire, il fait... Bon, Fons me dit que je dois faire attention à ce que je dis, ça me plaît vraiment pas, c'est une réunion en interne, normalement c'est censé être réservé aux membres de la NVA, moi j'en ai marre. Et puis là, il y a Fons des Châteaux qui reprend la parole et il dit « Oui, je vois qu'il y a des personnes dans la salle qui prennent des notes, ça part peut-être d'une bonne intention, mais on va leur demander d'arrêter. Et d'ailleurs, s'il y a des journalistes dans la salle, je leur demande de quitter la salle. » J'étais là, mon cœur il battait à la chamade, je me dis « Bon, con, ok, je regarde à gauche, à droite, je me dis « Qui peut être cette taupe ?» Et puis, Bardo Wever rajoute « Oui, parce que récemment, on a découvert qu'un journaliste francophone a pris sa carte de membre pour rapporter ce qu'il se disait dans les réunions. » Là, j'étais là, bon, ok, je crois que le message est assez clair, c'est un avertissement, je l'ai compris, mais je suis resté assis, j'ai essayé de garder mon calme, j'ai essayé de rester le plus calme possible. Et puis, la réunion a continué, et je suis resté, et la réunion s'est terminée. Et en sortant, je m'étais un peu trompé de chemin, et je croise tous les ténors de la NVA, et il n'y a personne, mais personne qui m'a adressé la parole, donc. Je trouvais ça vraiment un peu surréaliste. Mais bon, bref. Donc, ils m'avaient averti. Ils m'ont dit, voilà, on sait que t'es là. Mais c'est rien passé. Et puis, donc... et là, je me suis rendu compte, en fait. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils ont fait le lien? Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que c'était depuis que j'avais demandé l'interview à Bardo Wever. Ça faisait un mois. Et donc, depuis ce moment-là, je ne recevais plus les newsletters. Parce qu'il y avait des newsletters destinés aux membres de NVA. Et donc là, je n'avais pas reçu les deux dernières. Donc moi, je voulais un peu avoir une confirmation de leur part. Je voulais juste qu'ils me disent, voilà, on sait que c'est toi. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, je vais leur envoyer un email, un peu naïvement. Dites, comment ça se fait que je ne reçois plus votre newsletter? Donc je renvoie un email, pas de réponse. Un rappel, pas de réponse. Du coup, je téléphone au bureau de parti ici à Bruxelles. Et là, quelqu'un décroche le téléphone et me dit, ah oui, attendez, je vais demander à ma collègue. Et puis elle revient, elle me dit « Ah, en fait, ma collègue n'est pas là, mais on vous rappellera. » Oui, bon. En gros, c'est la technique de l'autruche, on ne veut pas me répondre. Et donc ça, j'ai compris que je n'aurais pas de confirmation officielle à ça. Mais en fait, j'aurais quand même une confirmation officielle, mais 9 mois plus tard. Mais je ne vais pas aller dans les détails, si vous voulez, on pourra... parce que je ne sais pas combien j'ai de temps, donc pendant la question-réponse, vous pouvez me demander comment ça s'est passé 9 mois plus tard, comment ils ont découvert... Enfin, comment ils m'ont expliqué vraiment qu'ils savaient que j'étais la taupe. Et puis, donc là, c'est quand il y a eu le discours où Bardo Wever a dit « On sait qu'il y a un journaliste dans la salle ». C'était en septembre 2017. Mais je savais qu'il y avait encore une réunion en décembre 2017, quelques mois après, où la NVA allait présenter son programme pour les élections communales. Je me suis dit « Bon, je vais quand même y aller, même s'ils m'ont un peu... c'est un avertissement, mais bon... » le seul truc, c'est que je ne savais pas à quelle heure avait lieu la réunion, parce que je ne recevais plus une newsletter, et là, on savait, j'avais cette information. Donc, du coup, je me suis dit, bon, j'y vais. Mais apparemment, je suis arrivé assez en retard, mais je ne sais pas de combien de temps. Mais donc, finalement, j'ai été à ma dernière réunion en décembre 2017. Et là, je me suis dit, je ne vais pas encore tenter le diable, je ne vais pas essayer de demander de renouveler ma carte. Je me suis dit, c'est bon, je suis resté 3 ans dans le parti, je crois que c'est assez. Et donc, voilà, là, j'ai simplement continué mon enquête sur 6 ans de NVA et... en tant que journaliste, en tant qu'obrituriel, donc plus d'infiltration de ce côté-là. Mais après, après quelques... Donc, et puis finalement, oui, donc pour le Vif Express, je travaille pour faire ce bilan-là. Donc là, on est en septembre 2018, et là, je publie, donc c'est un mois avant les élections, et je publie ce bilan. Et puis après ça, je m'étais dit, en fait, j'ai été à une bonne dizaine de réunions, j'ai une 20 heures d'enregistrement... J'avais écrit en tout 3-4 articles, mais j'avais encore de la matière. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Enfin, je me dis, j'en parle avec des amis et tout, puis il y en a qui me plaisantaient, ils disent, écris un livre. Puis je me dis, je réfléchis un peu, je me dis, pourquoi pas. Et donc, en fait, je prends 2 mois de congé au mois de janvier, en début 2019. Et donc, je propose un sujet de livre à différents éditeurs. Ils étaient intéressés au départ, et puis je leur envoie une partie. Et puis finalement, on dit, ah, c'est un sujet intéressant, mais si on le publie, donc ce sera en octobre, donc ça aurait été en octobre, donc il y a 2 mois. Donc c'est un peu trop tard, les élections sont passées, si ça se trouve, il y aura déjà un nouveau gouvernement fédéral. Ils étaient optimistes. Et donc finalement, l'idée de livre tombe à l'eau, mais j'étais là, mince, enfin, j'ai passé 2 mois et demi sans être payé, enfin, en étant indépendant, c'est un peu difficile. Donc je me dis, j'ai de la matière, j'avais déjà écrit pas mal de chapitres. Et donc bah là, je reviens vers Thierry Fiorilli du VIF, et je lui demande, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, on était 1 mois et demi avant les élections. Et là, il me dit, bah, désolé, mais dans le magazine, il n'y a pas de place, quoi. On a déjà tout prévu, mais par contre, on peut faire une série pour le web. Et donc du coup, bah, voilà, c'est parti pour une série pour le web. Et donc, on a commencé à publier le 18 mai, donc juste une semaine avant l'élection, et il y avait 7 chapitres, et donc un chapitre par jour. Et donc l'idée, en fait, de cette série, le thème, le titre, c'était 3 ans au sein de la NVA, ou je sais plus quoi, mais le vrai titre, selon moi, c'était plus la faute des autres. Parce que une des techniques rhétoriques de la NVA, c'est toujours, c'est la faute des socialistes, c'est la faute des Wallons, c'est la faute des syndicats, c'est la faute du CDNV. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, c'est toujours la faute des autres. Voilà. Et donc le 18 mai 2019, mon premier article est publié. Et donc je me suis dit, je vais quand même contacter mes collègues de la RTBF pour leur dire, ben voilà, j'étais absent 3 mois de la rédaction, ben c'est pour ça que j'étais absent. Et donc, ça c'était un samedi, et le lundi, je suis contacté par des collègues qui me disent, ah, on veut faire un sujet pour le JT de 13h, est-ce que tu es disponible? Mais là, j'étais à Amsterdam, parce que j'étais à un colloque avec des journalistes du monde entier, bref. Et donc, ben, ils m'ont dit, ah ben, ok, on va faire un Skype. Et donc le mardi, on a fait un Skype, et la news est... Donc ils ont parlé de mon infiltration là, sur le JT de 13h à la RTBF. Mais ils m'ont demandé un peu, oui, quels sont les passages croustillants, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a marqué? Et donc là, je suis revenu avec ce passage de novembre 2016 sur les razzias à Anvers et le fait qu'il y avait des actions menées par la police sur éventuellement certaines nationalités. Et donc voilà, et là, pour illustrer le sujet au JT, ils m'ont dit, bah, est-ce que t'as pas le passage odieux? Et je me dis, bah oui, si, je l'ai. Et en fait, un peu bêtement, moi je suis vraiment normalement un journaliste presse, web, donc j'ai pas vraiment toujours le réflexe multimédia. Et donc je lui renvoie le passage audio, ils en font un sujet au JT, et là, c'était le buzz, quoi. Enfin, c'était direct après le passage sur le 13h, il y a tous les médias belges qui m'ont téléphoné, VTM, RTL, la VRT. Bref, j'ai passé mon après-midi sur Skype et à répondre aux coups de téléphone. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte, en fait, que c'est le passage audio qui a fait vraiment toute la différence. Ça, je vais revenir un peu là-dessus après. Et aussi, bah, ce qui s'est passé, c'est que du coup, tous les médias ont mis cette news à la une de leur site. Il y a un hashtag #Airfranken qui a aussi vu le jour. Ça, je trouve que c'est toujours assez top de voir qu'il y a un nouveau hashtag qui s'est créé. Bref, ça, désolé, c'est un peu... Mais il y avait aussi une chose, c'est que donc au JT de 13h, la RTB avait relayé l'info, et puis au JT de 19h et 19h30, RTBF, VTM et RTL avaient diffusé l'info, mais pas VRT. Et j'étais un peu étonné, non pas que je veuille absolument être sur la VRT, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je travaille aussi à la VRT. Et mon collègue que j'avais eu au téléphone, il m'avait interviewé. Il était très suspicieux. Il me dit, mais comment ça se fait que tu viens avec cette news? C'est un truc qui est vieux d'il y a 3 ans ou d'il y a 2 ans. Pourquoi est-ce que tu viens avec ça? Mais là, je lui dis, il avait l'air un peu même d'être très suspicieux. Oui, genre, c'est un coup des médias francophones pour déstabiliser la NVA. Enfin, j'exagère un peu, mais c'était un peu ça derrière. Et donc, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est surtout un concours de circonstances. C'est simplement que, moi, au départ, je voulais que ce soit un livre, mais ça ne s'est pas fait. Et puis finalement, c'était... décidé que ce soit une série juste avant les élections. Et donc, en fait, c'est pas moi qui ai vraiment décidé de ça. Donc, on maîtrise pas toujours tous les éléments. On maîtrise pas toujours tous les éléments. Mais je voulais aussi un peu revenir sur l'analyse, comment les médias ont repris justement ce passage sur les razzias. Et ça, c'est... Donc, j'ai envoyé un passage audio aux collègues de la RTB. Et ce qui m'a un peu étonné, c'est que il y a un passage, il faisait, je crois, 1 minute 20, mais il a été coupé. Et dans le passage qui a été coupé, Bardo Weaver mentionnait le fait qu'il parlait de criminels illégaux. Alors que, si on coupe le passage, on a l'impression que Bardo Weaver parle de migrants. Et donc là, la nuance, elle est quand même assez importante, enfin même très importante à mes yeux. Et donc, dans la plupart des médias francophones, la news est arrivée, et on avait l'impression qu'en fait, Bardo Weaver parlait des migrants, et qu'on va expulser tous les migrants, qu'il allait faire des razzias pour des migrants, et pas des criminels illégaux. Alors que VTM avait repris le passage audio, et eux avaient bien mentionné le « illégal, le criminel ». Et donc ça, je trouve que c'est déjà c'est assez difficile en tant que journaliste, parce que moi, mon but de faire cette série, c'était surtout d'apporter de la nuance. La nuance est méga importante. Pour moi, c'est une série de 7 articles qui font 20 000 signes, donc c'est vraiment des long reads. C'est que je veux vraiment dire, je veux vraiment apporter de la nuance à ce débat, et cette nuance-là, elle est partie. Et donc ça, c'est un peu une frustration. Une autre chose aussi dans l'analyse par la suite, c'est que donc Bardo Weaver a réagi dans les médias, et lui, il a minimalisé l'affaire. En fait, il a dit c'est normal, moi je suis fier du travail de Théo Franken. S'il y a des personnes qui sont criminelles sur dans notre pays et qu'elles viennent d'un autre pays, on va les renvoyer dans leur pays parce qu'elles ont commis des actes criminels. Et donc, du côté médias néerlandophones, on s'est surtout centré sur est-ce que c'est en gros, ils ne sont pas beaucoup posé de questions sur le fait que la police ait éventuellement recours à des arrestations ciblées sur des nationalités spécifiques. Alors que du côté francophone, c'était vraiment là-dessus qu'on s'est concentré. Et donc ça, c'est aussi une analyse que l'angle dans les médias francophones et néerlandophones était assez différent. Et donc, si je reviens un peu sur la Belgique francophone, pour beaucoup, dans l'imaginaire francophone, belge francophone, c'est la NVA, c'est un parti raciste. Moi, il y a beaucoup de gens avec qui je parle, ils me disent « Ah, c'était comment ton infiltration au Vlaams-Belang ?» Je dis « Ben non, c'est pas le Vlaams-Belang, c'était la NVA. » Donc il y a beaucoup de gens qui confondent un peu les deux partis et qui pensent que la NVA est un parti qui est vraiment assimilé au Vlaams-Belang. Et moi, dans toute ma série, justement, d'articles, j'ai souligné le fait que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Effectivement, il y a peut-être des personnes qui sont des électeurs ou des membres de la NVA qui venaient du Vlaams-Belang et que peut-être eux ont des idéologies racistes. Mais moi, dans les réunions auxquelles je suis allé à Anvers, je n'ai jamais entendu de propos racistes de la part des dirigeants. Et donc, si on lit ma série d'articles, là, on comprend, mais si on écoute juste certains passages dans la télévision francophone belge, alors là, on a juste la confirmation. Ah, on savait que c'était des racistes. Ah, voilà, c'est juste la confirmation. Et donc ça, c'était un peu une grande frustration pour moi, en fait, que j'ai l'impression que je voulais apporter plus de nuances, et en fait, ça n'a que confirmé certains préjugés que certaines personnes avaient à l'avance, si ils n'ont pas pris la peine d'aller lire vraiment ce que j'ai écrit. Vous voyez, voilà, donc ça c'était un peu une remarque en général. Donc comme je vous l'ai dit, et c'est dommage que j'ai pas le PowerPoint, parce qu'il y avait, je voulais vous montrer une petite vidéo où en fait je voulais expliquer le concept de la faute des autres. En fait, j'ai utilisé ce titre parce que, en fait, à Anvers, il y a un homme qui s'appelle BDW. Donc en fait, c'est un humoriste qui se prend pour Bardo Weaver. Donc il va dans la rue, il est en costume, il se prend vraiment pour Bardo Weaver, il fait des satires, il fait des vidéos sur Bardo Weaver. Et il y a une de ses chansons qu'il a faite, et ça s'appelle « De Schuld van de Andere », donc la faute des autres. Et là, il met en scène un peu une vidéo où c'est la faute des socialistes, c'est la faute des Wallons, c'est la faute blablabla. Et donc elle était assez amusante, mais bon, on la verra pas. Mais moi, ce que je voulais dire avec ça, c'est que aussi, une des leçons que j'ai retirées de cette infiltration, c'est que il y a des choses qui m'ont quand même surprise. Et c'est, par exemple, le fait que la NVA, même en interne, ne parlait pas de confédéralisme. Enfin, entre 2014 et 2017. Hein, donc je veux toujours bien mettre la nuance, mais Ils ont parlé une fois du confédéralisme, c'était la première réunion à laquelle je suis allé, où là, ils expliquaient la différence entre le programme électoral et l'accord de gouvernement. Et là, ils ont dit clairement à leurs militants, ben non, nous, on ne va pas mettre de communautaire sur la table, parce qu'on n'a qu'un seul allié en Belgique francophone, c'est le MR, et eux, ils ne veulent pas. Et donc pendant la dizaine de réunions, pendant les 3 ans où je suis allé, ils n'ont jamais parlé de confédéralisme, ils n'ont jamais même parlé du Vlaams Belang, donc c'était... pour moi, assez surprenant. Et oui, aussi une autre anecdote, c'était que donc mon premier article, le titre c'était pour la NVA, le CDNV est le plus grand souci. Et en fait, ça s'est avéré tout le long de la législature. Et ça a continué. Et même en néerlandais, ils ont trouvé un terme qui s'appelle le kibble cabinet. Donc ça s'appelle le gouvernement qui se chamaille. Et donc là, on a vu que pendant les 5 dernières années, le CDNV et la NVA n'arrêtaient pas de se critiquer ouvertement. Mais là, j'ai pu apporter la preuve, entre guillemets, même avant que le terme kibble cabinet arrive. Donc voilà. Et si je pouvais un peu résumer, et peut-être plus parler de mon expérience personnelle, un peu, qu'est-ce que je retire un peu de cette expérience, c'est que je crois qu'il ne faut pas vraiment faut pas faire un dessin, mais bon, la manière d'analyser la manière dont les médias néerlandophones et les médias francophones en Belgique diffusent l'information est différente, mais là je l'ai pu le voir moi-même. Mais une chose pour laquelle j'étais vraiment assez satisfait, c'était qu'au moins, ici, mon enquête a été diffusée en Belgique francophone et en Belgique néerlandophone. Et ça, j'étais assez content parce que j'avais peur que ça reste juste au niveau francophone. Et c'est souvent, en fait, on parle des préjugés, on ne voit pas un peu ce qui se passe de l'autre côté. Il y a d'autres choses aussi, je l'ai déjà un peu abordé, mais aussi, on ne maîtrise pas tout. Là, comme je vous ai dit, au départ, moi, je voulais faire un livre. Finalement, c'est devenu une série d'articles. Et donc, le timing, finalement, ça a changé. Et je pense que ça a pris tellement d'ampleur dans les médias parce que c'était aussi une semaine avant les élections. Donc, ça aussi, le contexte joue grandement. Et aussi, et ça, c'était une erreur de ma part, je pense, c'est de ne pas avoir pensé à utiliser ce passage audio. En fait, en novembre 2016, j'aurais pu utiliser ce passage audio, même le mettre dans... Parce que c'était pour le Vif Express, c'était un article sur le web, donc j'aurais pu très bien... Et donc ça m'a un peu ouvert l'esprit et me dire, en fait, que... Ben oui, il faut penser... c'est grâce à ces erreurs qu'on avance, en fait, tout simplement. Et une autre chose aussi que je regrette un peu et que j'avais pas pris assez le temps, c'est que... Donc là, j'ai enregistré Bardo Weber qui dit qu'il s'accorde avec Theo Franken pour faire des actions policières visant des nationalités bien spécifiques. Mais j'ai pas, après, enquêté là-dessus. Donc, en fait, j'ai juste rapporté ce que Bardo Weber avait dit à ce moment-là, mais j'ai pas fait ma propre enquête. Et donc ça, c'est un peu aussi quelque chose, je me dis, après coup, j'aurais dû creuser là-dessus. J'aurais dû creuser, mais bon, voilà. On apprend de ses erreurs, comme je dis. Mais si je pouvais donner des petits conseils aux jeunes journalistes ou les journalistes en devenir ici dans la salle, c'est aussi d'assurer ses arrières. Donc, comme je vous ai dit, avant de prendre ma carte de parti, je me suis assuré, j'ai d'abord téléphoné au conseil de déontologie journalistique pour savoir est-ce que je pouvais le faire ou pas. Et ce qui m'a permis, par la suite, de ne pas avoir que la plainte de la NVA soit non fondée. Donc, il y a aussi, si vous faites de l'investigation, il y a aussi une assurance annuelle que vous pouvez prendre. Et donc, c'est une assurance qui couvre vos coûts juridiques. Donc, si vous devez faire appel à un avocat, si quelqu'un va aller au tribunal contre vous, ben, au moins, vous avez payé juste, je crois que c'était 150 ou 250 euros pour l'année. Mais au moins, vos frais sont couverts en justice. Donc, ça, c'est un autre conseil que je vous... propose. Et pour terminer, en fait, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a 5 jours, il y a un journaliste indépendant flamand qui s'est rendu dans une réunion NVA où Theo Franken a parlé. Et il a aussi utilisé en fait la méthode de l'infiltration. Mais je ne pense pas qu'il ait pris sa carte de parti. Mais et lui aussi, en fait, il est indépendant. Et donc, et ça, c'est un peu une question que je laisse un peu ouverte, c'est que ça prend beaucoup de temps de faire de l'investigation. Ça prend beaucoup de temps d'aller... C'est parce que j'adore ça, et donc moi, j'adorais aller juste le soir aller à des réunions NVA. C'est mon kiff, la politique, bref. Mais bon, j'étais pas payé pour ça, par la suite, un peu, pour les articles. Et donc, C'est assez difficile de combiner cet élément-là. Si j'étais journaliste dans une rédaction, par exemple, je ne sais pas si on m'aurait payé pour aller faire ce genre d'infiltration. Donc voilà l'exemple aussi du journaliste freelance qui a publié pour De Morgue. Peut-être que on a lancé une nouvelle mode journalistique. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions.
Voilà, merci Aubry pour cette belle intervention, ce beau témoignage. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, oui.
Merci beaucoup. Je voudrais en savoir plus sur l'infiltration en tant que telle. Donc, tu as assisté à un ensemble de réunions et donc tu étais là enregistrant. Est-ce qu'au fur et à mesure des mois, tu es entré en interaction avec des sources où tu as discuté de façon approfondie en faisant des interviews qui ont impliqué que tu continues à masquer ton identité? Et comment tu as géré ensuite la relation que ça crée et peut-être la rupture de relation que ça crée ensuite avec des gens qui ont cru que tu étais quelqu'un d'autre?
En fait, ma méthode ici n'était pas, par exemple, au contraire d'un exemple d'une journaliste ou d'un journaliste en France qui avait infiltré le FN et qui avait monté dans les échelons du parti, c'était pas du tout mon intention, parce que moi ici, je suis francophone, j'ai étudié le néerlandais, je parle, je pense, très bien le néerlandais, mais on entend aussi mon accent. Donc moi, j'avais un peu peur que on ait des soupçons sur mon intention ou je sais pas. Donc en fait, ma technique, c'était très simple, c'est juste, je vais dans les réunions, je m'assieds, je parle le moins possible avec les gens autour de moi, et donc du coup, c'était simplement être présent et faire le moins vague possible, en fait. Et si j'ai des personnes à côté de moi qui me parlent, évidemment, je réponds, et je fais un peu la causette, mais j'ai pas vraiment été gratté, j'ai pas essayé non plus de monter dans le parti ou quoi que ce soit. Donc ça, c'était un peu la technique. Maintenant, pour ce qui est de la relation après entre les médias ou mes relations avec la NVA ou... un exemple, c'est que après le premier article que j'ai publié dans le Vif, en fait, la NVA a refusé toute interview avec le Vif Express. Donc, c'est une pratique très courante de la NVA parce qu'ils sont très sélectifs dans la manière. Il n'y a pas qu'avec les médias francophones. Hein, donc, ils ont boycotté la RTBF, ils ont boycotté le Vif, ils ont boycotté le Standard. Ils choisissent vraiment de manière spécifique. Mais donc, en fait, un des arguments pour dire, attention, tu vas te brûler les ailes s'ils découvrent que c'est toi. De toute façon, ils n'acceptaient pas une interview, même s'ils ne savaient pas que j'étais la taupe. Tu vois, donc, en fait, il n'y avait pas vraiment de différence entre le fait qu'ils sachent que j'étais la taupe ou pas. Parce qu'ils n'acceptaient de toute façon pas beaucoup d'interviews avec les médias francophones. En tout cas, le Vif ici. Et peut-être encore une anecdote, c'est là que je voulais mentionner. C'était que... Donc, 9 mois après le discours, enfin la réunion, ils m'ont dit « Ah, il y a un journaliste dans la salle, on sait, blablabla. » En fait, moi, pour mon bilan pour la NVA à Anvers, donc j'ai analysé plein d'aspects. Et donc, un des aspects, c'était la politique sociale à Anvers. Et donc, dans ce cadre-là, moi, je voulais interviewer l'échevin des affaires sociales, qui est Fons du Château et qui est le président de la NVA à Anvers. Et donc, tout simplement, j'ai demandé d'avoir une interview, il ne m'a pas répondu. Et puis, je téléphone à son porte-parole. Là, pendant 5 jours d'affilée, je lui téléphone une fois par jour, pas de réponse. Une fois, il m'a répondu, il m'a dit « Oui, on t'a pas oublié, ne t'inquiète pas. » Finalement, pas de réponse, j'étais là « Ok, bon. » Du coup, je me dis « je vais sur le terrain, je vais aller, il y a un événement, c'était dans la cathédrale, à Anvers, et je savais que l'échevin était là. » Et donc là, j'arrive sur place, je vois le fond du château, et je lui demande « Oui, bonjour, est-ce que je peux vous poser quelques questions ?» Et là, il me dit « Ah, désolé, mais toute communication se fait avec mon porte-parole. » Évidemment, le porte-parole n'était pas là. Donc c'était une manière pour la NVA d'éviter toutes les questions. Et donc là, je me suis dit, ok, vous voulez jouer à ce petit jeu-là. Bon, je regarde à nouveau l'agenda et je me suis rendu compte que quelques jours après, il y avait l'inauguration d'une exposition au CPAS sur les femmes battues au CPAS à Anvers. Et là, j'ai vu que Fons du Château et son porte-parole, Michael Lescoart, pour le nommer, qui est entre parenthèses le compagnon de Zwaldemir, bref, pour un peu expliquer, allait être présent. Et donc c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit, je vais aller là-bas, je ne vais pas dire que j'arrive. Et là, je vois le porte-parole, je dis, Michael, je suis content de te voir. Ça fait un mois que j'essayais d'avoir une réponse à mes questions. Et donc là, je lui ai posé mes questions. Et puis à un moment, je lui ai dit, Je sais pas pourquoi, enfin, j'ai vraiment l'impression que vous m'évitez, quoi. Et puis là, il me répond, c'est pas toi qui as pris la carte, ta carte de parti à NVA? Je dis, ah, pardon, comment tu sais ça? Ouais, mais réponds. Je lui dis, bah oui, et alors? Ah, bah t'es journaliste. Bah oui, et alors? Ah, bah ok, bah t'aurais mieux pu servir le parti. C'était sa réponse. Donc voilà, c'est pour dire en fait que donc par la suite, ils ont tout mis en œuvre pour ne pas répondre à mes questions. Mais même quand ils ne savaient pas, et c'était un autre exemple avec un autre échevin, Koen Kenis, j'avais aussi fait un bilan de la NVA à Anvers, mais seulement après 2 ans de pouvoir. Et là, je voulais interviewer Koen Kenis, qui était l'échevin des finances. Et là, par mail, ils m'ont dit non, je ne vous répondrai pas. Ok, mais donc je me suis dit, bon, je vais aller au conseil communal, et à la sortie du conseil communal, ben là, je l'ai vu, et je lui ai demandé, est-ce que je peux vous poser des questions? Et là, il a bien voulu répondre à mes questions. Donc en fait, c'est toujours joué par la voie officielle, par email ou par téléphone, c'est facile de dire, non, on ne va pas répondre à vos questions, mais donc, aussi, un des conseils, si vous voulez vraiment avoir des réponses à vos questions, il faut aller voir les gens, il faut aller sur le terrain, il faut vraiment aller les consulter.
J'ai une petite question. Aujourd'hui, quelles sont les répercussions, qu'elles soient positives ou négatives, par rapport à l'NVA, par rapport à ton activité professionnelle? Est-ce que ça t'a ouvert des portes? Est-ce que tu as encore des problèmes avec l'NVA, etc.? Donc, les répercussions.
En fait, je n'ai jamais eu de problème avec l'NVA. Donc, que ce soit clair. Comme j'ai dit, ils adoptent la politique de l'autruche, donc du coup, c'est comme si j'existais pas. Quand eux, ils ont un problème, et c'est pour ça qu'ils sont de fins tacticiens et fins communicants, c'est que s'il y a un problème, ben, ils vont pas en parler, comme ça, ça fait pas de vague. Donc ça, voilà. Au niveau des conséquences, ben, moi, personnellement, c'est assez positif. Et c'est aussi, parce que pendant 3 ans, je suis resté un peu avec ce secret, et bon, mes amis savaient que je faisais ça, mais bon, voilà. Donc là, c'était un peu un soulagement aussi de sortir et de dire, voilà, je l'ai fait et j'étais assez satisfait. Mais par exemple, des exemples concrets, j'ai toujours voulu écrire pour Wilfried ou pour Médor. J'avais déjà contacté les rédactions quelques années avant, et ils ne m'avaient pas vraiment donné suite à mes demandes. Et puis je me suis dit, bon, je vais en profiter, je suis passé dans les médias, ils me disent, bon, peut-être qu'ils vont peut-être changer d'avis, entre guillemets, et ça s'est fait. Donc là, maintenant, dans le dernier Wilfried, j'ai eu 2 articles. Le prochain Médor qui sort, j'aurai aussi un papier. Et donc au niveau journalistique, c'est aussi assez gratifiant. Et peut-être aussi au niveau de la RTBF, parce que je travaille au web à la RTBF, et bon, enfin, on s'en fout, je vais quand même parler. On m'a dit que c'était sans. Enfin, que je pouvais me lâcher, entre guillemets. Non, mais qu'il y a quand même encore, au sein des grands médias, encore des catégorisations entre la TV, la radio et le web. Et les gens du web ne sont pas très bien considérés en général. Et donc, tous mes collègues sont retournés. Ah, waouh, t'as fait ça. Et donc, du coup, les confrères te regardent aussi différemment. Et je pense que ça te permet aussi d'ouvrir d'autres portes. Donc c'est positif dans ça.
Alors est-ce que tu as d'autres projets d'immersion plus tard, et est-ce que ce ne sera pas compliqué maintenant qu'on connaît ta véritable identité?
En soi, l'immersion n'était pas un but en soi. C'est pas la fin qui justifie les moyens. En fait, c'est simplement que j'ai pas l'objectif ici de recourir encore à cette méthode, mais pourquoi pas, si c'est nécessaire. Mais oui, j'ai d'autres projets évidemment, et donc, mais là c'est plus des projets. Enfin, une de mes ambitions, c'est vraiment de collaborer et d'essayer d'avoir des enquêtes qui sont d'investigation et qui soient aussi publiées en néerlandais et en français. Donc là, je collabore avec un journaliste néerlandophone. Donc là, on est en train de faire une grande investigation dans le cadre d'un réseau international, bref. Et là, on va publier en français, en néerlandais. Et voilà, donc. Mais là. Comme je disais, vraiment l'infiltration, il ne faut pas se dire « Ah, je vais faire ça juste pour le plaisir », il faut vraiment que ce soit justifié.
On peut l'applaudir chaleureusement.
Vous étiez au Théâtre Marny qui accueillait le Festival du journalisme en devenir, et Aubry Touriel était le narrateur de sa propre expérience. Le Festival de journalisme en devenir est une initiative de l'Association des journalistes professionnels, l'AJP. Le festival est soutenu par la RTBF, BX1, RTL-TVI, le Centre d'Action Laïque, l'ULB, l'Union des anciens étudiants de l'ULB et les anciens étudiants du département journalisme et communication de l'ULB.